au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Notre invité aujourd'hui a occupé une place importante dans le cœur de toute une génération. Elle a interprété un personnage que les enfants d'hier ont bien connu. Elle a aussi écrit un livre à l'intention des parents ayant pour titre « Ces parents que tout enfant est en droit d'avoir ». Nous recevons aujourd'hui... Ah, et tiens, avant de vous le dire, écoutons donc le thème de l'émission où elle interprétait Passe-Carreau.
Passe-Montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-Carreau culbute, saute et tourne en rond. Où est Passe-Partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, Canelle et Bruno. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici.
Vous avez bien sûr reconnu le thème de Passe-Partout. Claire Pimparit est avec nous. Bonjour, Madame Pimparit.
Bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil.
Oui, ça vous rappelle des souvenirs, évidemment.
Ben oui, évidemment, mais tu sais, honnêtement, je vais vous dire que c'est pas la première fois que je l'entends. Hein?
Et je vous dirais que toute une génération qui la connaît par cœur, cette chanson.
Oui, mais je vais vous faire rire, parce que quand on a mis sur le marché le quatrième coffret, ça se passait aux Outre-Grimbé, et c'est tellement drôle parce qu'il y a la nouvelle génération de petits là, qui ont commencé à regarder les coffrets. Alors, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y a évidemment les parents qui ont 30 ans, les nostalgiques qui, quand ils nous voient, ont les larmes à l'œil, nous prennent dans leurs bras et tout. Mais les 8-9 ans, ils comprennent pas pourquoi leurs parents sont comme ça. Puis ils sont trop vieux pour les 4-5 ans qui regardent l'émission. Alors, c'est eux qui prenaient les photos.
Mais en fait, je disais pour toute une génération, mais en fait, c'est plusieurs générations parce que cette émission a été reprise. Maintenant, il y a des coffrets.
Exactement.
Et les thèmes abordés sont universels.
Non seulement ils sont universels, mais ils sont encore d'actualité. Écoutez, cette émission qui date de 33 ans, dans une des émissions, Passe-Montagne va mettre les déchets à la rue. Donc, Passe-Partout et Passe-Carreau, donc Marie et moi, on va chercher les déchets, on les ramène, on vide sur la table et on fait du recyclage. Ça n'existait pas au moment où on le fait. Alors, c'est encore très d'actualité.
Vous savez qu'on a aussi l'envers de la médaille, c'est qu'on a souvent reproché à cette série des psychologues, par ailleurs. Parce qu'il y avait des psychologues qui collaboraient.
Les pédagogues.
Les pédagogues.
Les fameuses pédagogues.
Oui, mais il y a des psychologues qui ont dénoncé certains aspects de cette émission en disant qu'on créait, en fait, l'enfant roi. Vous avez sûrement entendu.
J'ai entendu ces critiques. D'ailleurs, un qui, on a bien ri quand on en avait parlé avec lui, c'est Richard Martineau, qui à la fin avait compris ce que ça voulait dire et on criait pas des enfants rois. Faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque où Passe-Partout a été mis sur le marché, les pédagogues travaillaient avec les enfants démunis, défavorisés. Mm-hmm. Et ces enfants-là avaient pas accès à une éducation et à une culture ou à quoi que ce soit. Donc, ils ont dit, on va créer une émission pour leur permettre d'avoir la même chose que ceux qui ont accès à cette forme d'éducation-là, ou parce que les garderies n'existaient pas à l'époque. Donc, l'émission, elle était conçue pas pour faire des enfants rois, mais pour permettre aux enfants démunis, défavorisés, d'avoir accès aux mêmes qualités d'information, d'enseignement que les autres.
Et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup d'informations. D'une certaine manière, c'est un peu le pendant de Sesame Street.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que Sesame Street, sauf que ça a souvent été comparé parce que c'était la seule émission américaine à ce moment-là avec qui il y avait lieu de comparer une autre émission. Mais c'était une émission aussi populaire qui avait la même tendance à vouloir donner de l'information, mais surtout, par le biais du jeu, amener une certaine éducation.
Au plan de la production, parce que vous disiez que ça fait déjà plus de 30 ans,
oui.
C'est assez incroyable. Au plan de la production, parce que les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Absolument pas.
Est-ce que vous aviez un grand temps de préparation pour chacun des épisodes?
Pas vraiment. En fait, on avait, comme on tournait tous les jours de la semaine, on tournait 4 émissions par semaine et le vendredi, on tournait tout ce qui n'avait pas été tourné, genre souvent les extérieurs. Par contre, on avait des journées de répétition et les journées de tournage, mais c'était continu à toutes les semaines. Et ce qui nous a pris par surprise, c'est que au moment où on a commencé à faire les émissions, ils ont tout de suite entré en onde. Puis au départ, ça devait pas être quotidien, ça. Ça devait être les fins de semaine.
Ouais.
Et finalement, ça s'est avéré que les gens redemandaient. Alors nous, on n'avait même pas fini de tourner. L'émission était déjà en onde le lendemain. Alors c'était fou, là, comme production.
Mais on sentait la complicité qui existait avec Marie-Ekel, Jacques.
Ah oui, Jacques, Marie et moi, là, on était vraiment... Écoute, il y a une chimie entre nous trois qui est très assez particulière. Les gens disent toujours
restée,
que
je
trois...
présume.
Oui, absolument. On a eu énormément de plaisir et ça. Et je pense qu'une des qualités, c'est justement la chimie qu'on a tous les trois. On s'est vraiment amusés, on s'aimait, on se respectait et il n'y a jamais eu de compétition entre nous parce que on s'est toujours aimés. On était toujours heureux de voir l'autre réussir ou être heureux ou on était des vrais amis. Il n'y avait pas de compétition là. Là-dedans. C'était vraiment, on respectait qui on était très différents l'un de l'autre et on aimait ce que l'autre était finalement.
Les gens n'ont pas idée de la somme de travail que cela pouvait représenter et il faut dire qu'au début, les conditions de travail n'étaient pas des conditions extraordinaires. Hein?
Non, pas du tout. On n'était pas les seuls. Là. Il y a Kim Yaroshevskaya qui faisait la grand-mère, Pierre Dufresne, il y avait Grand-papa Bi. Jean-Claude Robillard, tout le monde finalement qui travaillait à Passepartout. C'était une histoire d'amour parce qu'à l'époque, et écoutez, c'était 83 $ l'émission, ça incluait 5 ans de droits de reprise, là. Mais on aimait ce qu'on faisait, puis à cette époque-là, il y en avait évidemment qui travaillaient à Radio-Canada qui avaient 3 fois le même salaire pour la même genre d'émission. Mais c'était une émission qui était du ministère de l'Éducation et ça avait un but, encore une fois, d'aider les enfants démunis, défavorisés. Donc, il n'y avait pas non plus... et ça, on l'a respecté, nous, quand on a mis les coffrets sur le marché. Il n'y avait pas de produits dérivés, vraiment. Et on a respecté ça. Je pense pas qu'on voulait même, aujourd'hui, mettre les coffrets puis devenir des Dora, là. Ça nous intéressait pas. On voulait garder le côté puriste de tout ça.
Mais pensiez-vous à ce moment-là que cette série deviendrait en quelque sorte une série culte, une série qui a connu l'importance qu'on connaît?
Non, on a été pris par surprise parce que nous, à un moment donné, on a fait le tour des écoles et puis on allait voir et on a été vraiment étonnés de voir l'ampleur de ce qu'on représentait pour les enfants. Mais là, je vais aller plus loin. C'est que c'est très important jouer un personnage comme celui-là. Parce que non seulement on a une responsabilité, mais moi, j'ai été obligée d'apprendre à gérer Pascaro. Quand, à un moment donné, Pierre Dufresne, qui faisait Fardoche, sa femme était infirmière à l'hôpital Saint-Jérôme, elle m'appelle Pierre m'appelle, il me dit « Écoute, Claire, on a un enfant en phase terminale qui voudrait tellement te voir. » Moi, je fais « Oh oui, je fais garder mon enfant, je m'habille en Pascaro, j'arrive à l'hôpital et puis bon, je prends l'enfant dans mes bras et j'ai passé la journée à l'hôpital avec les enfants qui étaient là, incluant évidemment l'enfant en question que j'ai pris dans mes bras. J'étais assis dans le lit avec lui. » Et sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, parce que c'était la première fois de ma vie, j'avais 24 ans, c'est la première fois que j'accompagnais un enfant malade en phase terminale. Et à un moment donné, sa mère arrive. Et elle me voit se mettre à pleurer parce qu'elle est heureuse que son enfant puisse réaliser un de ses rêves. Et elle le regarde, puis elle lui dit, « Montre-lui ta photo, comment t'étais beau quand t'avais des cheveux. » Et là, moi, je fais... « Ah, c'est quoi ça? Pourquoi qu'elle dit ça? » Et c'est l'enfant qui, lui, me regarde avec un sourire et me dit, « C'est parce que tu sais, quand maman me voit là avec les cheveux, je suis vivant pour elle. » L'enfant acceptait et était en train d'apprendre à sa mère à accepter son départ. Et en même temps, il m'apprenait à moi ce que je devais faire, c'est-à-dire l'accompagner à ce qu'il puisse prendre son envol. Mais moi, là, j'étais complètement démunie face à tout ça. Et quand c'est arrivé, puis qu'il a pris son envol,
Je me souviens qu'après, je suis sortie de l'hôpital, ça a pris énormément de temps. J'étais dans le stationnement, puis j'ai pleuré pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures. J'étais incapable de conduire. Et je me disais, plus jamais je vais faire ça. Plus jamais de ma vie je vais faire ça. Et pourtant, je l'ai fait pendant 30 ans.
Et vous en parlez encore avec beaucoup d'émotion.
Oui, ces enfants-là, c'est des grands maîtres qui m'ont appris que quand on, dans la vie, on accepte de recevoir un cadeau comme ce personnage-là, il y a des conséquences avec ça et on doit respecter ce cadeau-là de la vie.
Alors, une belle leçon de vie pour mettre un peu le ruban autour de ce beau cadeau que vous venez de nous raconter. Frida Bocara, Un jour un enfant.
Oui, merci.
Un jour se lèvera sur 3 branches. Un enfant regardera comme un livre d'images le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à
Avec nous aujourd'hui, Mme Claire Pimparé, Un jour un enfant, une chanson qui exprime bien ce que vous racontiez. Ça marque, ça interpelle aussi quand on joue un personnage. Vous parliez de la responsabilité du personnage. Oui. Ça vous a suivi toute votre vie?
Oui, ça, et je le prends et je l'accepte parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie de me permettre... Vous savez, la plus belle énergie qu'on peut avoir sur la Terre, c'est d'avoir un enfant à nos côtés. Et à tous les parents, on doit se demander pourquoi on veut un enfant et pourquoi on met un enfant au monde. Parce qu'un enfant, on ne le met pas au monde pour combler un vide ou un besoin. On ne le met pas au monde pour réparer le couple qui fonctionne pas. On ne donne pas à un enfant un contrat de ce genre-là. Un enfant, il a le droit de venir au monde tout simplement parce qu'il a le droit d'être un être humain. Et nous, en tant que parents, on se doit d'être responsables et de le guider, de garder son enfant vivant dans tous les sens du terme.
Est-ce que c'est cela qui vous a incité un jour à écrire ce livre, « Ces parents que tout enfant est en droit d'avoir pour la vie » D'ailleurs, avec une préface du Dr Julien.
Ah, quel honneur! C'est tellement un beau cadeau.
Gilles Julien, oui.
Oui. C'est un beau cadeau parce que quand j'ai rencontré le Dr Julien, j'étais très timide, très gênée même de lui demander. Je lui ai dit, écoutez, prenez connaissance et si oui, vous voulez me faire ce cadeau-là de signer ma préface, on se revoit puis c'est tout. Et j'ai compris une chose, c'est que le Dr Julien et moi, on travaillait dans le même sens et moi, je dis, c'est pas facile d'aider les gens parce que pour aider une personne, il faut qu'elle veuille s'aider elle-même. Alors, on travaille avec des gens qui, des fois, ne veulent pas s'aider. Il faut leur donner des outils à vouloir apprendre à s'aider. Et le docteur Julien, moi, je lui ai dit, si on est pour travailler dans le même sens, pourquoi pas s'entraider? Moi, je suis devenue son porte-parole de dansmabulle.com, qui est un projet absolument intéressant. Vous allez voir des profils d'enfants et on veut crever la bulle pour aller voir derrière la peine et la colère. Puis vous allez voir un profil d'enfant très touchant, genre il y a la petite fille, son frère la renie, sa mère dit qu'elle n'écoute pas, que c'est un enfant qui n'est pas au niveau hygiénique, elle se lave pas, elle veut rien savoir. Le professeur dit toujours fatigué, elle n'a aucun intérêt. Quand le docteur Julien l'a pris dans ses bras puis il est allé crever la bulle pour voir derrière, elle se faisait violer tous les soirs par le chambreur.
Incroyable.
Donc, la première, quand je disais, puis je rencontrais les enfants, les mots du silence, comme j'en parle dans mon livre, je dis toujours, faites attention les enfants, parce que le regard que vous posez sur l'autre peut le détruire.
Mm-hmm. Vous dites, dans ce livre, dans le fond, c'est vos souhaits, vos pensées, vos rêves pour nous motiver à être de bons parents. Le docteur Julien mentionne dans sa préface, être vrai reste sûrement la meilleure façon d'y arriver, puisque nous sommes uniques et que nos enfants le sont aussi.
C'est le but de mon livre. Je le dis toujours, arrêtez de vous. Il n'y a pas lieu de se comparer. Tout le monde est unique. On a nos forces, nos talents, nos qualités, nos défauts. Il n'y a pas lieu de se comparer, mais essayez d'aller chercher les forces et les talents et vous verrez que votre enfant n'est pas ce que le voisin... Peut-être que Mozart, à 3-4 ans, il jouait de la musique, mais qui c'est qui vous dit qu'il n'était pas propre à 5 ans?
Mm-hmm.
On a nos forces et nos talents, nos défauts, nos qualités. Cherchez, au lieu d'aller voir ce qui ne va pas, allez chercher ce qui va bien. D'ailleurs, dans le livre, et ça, j'en parle souvent dans les conférences, les gens trouvent ça drôle parce que j'ai été quand même 5 ans au Conseil supérieur de l'éducation. Et j'ai donné des ateliers aux jeunes enseignants de l'Université Laval. Et je leur donnais, et ça fonctionne. Alors, c'est un bon truc, là, pour voir la maison, là, vous pouvez l'essayer, vous allez voir si ça fonctionne. Puis dans les écoles, ça fonctionne. C'est les feux de circulation. Jaune, évidemment, vert et rouge. Quand les enfants arrivent à l'école, il s'est passé quelque chose à la maison, c'est dramatique, soit un décès, il s'est passé, il arrive à l'école, il met un feu rouge devant son pupitre. Le professeur qui voit qu'il a mis un feu rouge, il ne lui demandera pas de venir en avant chanter une chanson. Il va attendre que son feu change au jaune puis au vert.
Mm-hmm.
Et s'il reste au rouge, le soir, il va dire, viens me voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le professeur, si les enfants voient qu'il a mis un feu rouge, ils vont dire, oh boy, on va se tenir tranquille aujourd'hui parce que je pense que ça va brasser. Mais le papa qui arrive à la maison le soir, puis sur le frigo, vous avez mis les photos de tout le monde, puis qui met un feu rouge à côté de son nom. Les enfants, ils vont dire c'est pas à cause de nous que papa il est pas bien, il a pas eu une bonne journée au travail, donc on va lui laisser le temps d'aller faire son jogging avant de sauter dessus.
Donc savoir se reconnaître soi-même.
Exactement. Et se respecter. Moi j'appelle ça la communication du silence. Faire savoir qu'on est, dans quel état, on est des êtres humains. On a le droit, et les parents ont le droit aussi à l'erreur.
Alors, on poursuit sur cette lancée, mais un mot pour vous dire que toutes les chansons aujourd'hui sont des chansons avec le thème de l'enfance.
Que j'aime!
La prochaine, elle est interprétée par Jeannot Lessard. Ça, c'était une découverte d'André Lejeune au moment où vous enregistriez probablement Passepartout.
D'accord!
Dans les années 70.
J'aime ça, c'est des découvertes.
Ce monsieur Lessard est technicien en télévision maintenant. Il a grandi comme les autres et la chanson porte bien son titre, ce sont Les enfants d'hier.
Ah, c'est beau.
Les enfants d'hier étaient-ils plus heureux? Ils avaient plus à faire, ayant moins de jeux. Les enfants d'hier possédaient déjà la lune et la terre, et bien plus grand que ça. Les enfants d'hier sont devenus parents. Sous leur masque de fer, ils demeurent des enfants. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus des enfants. Ils ont beaucoup de fruits, mais pas beaucoup de temps. Les enfants d'aujourd'hui ont la vitesse du vent. Ils sont tout petits, déjà voient plus grand. Les enfants d'aujourd'hui, tout comme ceux d'hier, auront des cheveux gris et rêveront. Les enfants d'hier étaient-ils plus heureux? Ils avaient plus à faire, ayant moins de jeux. Les enfants d'hier possédaient déjà la lune et la terre, rêvant plus grand que ça. être des enfants. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus des enfants. Ils ont beaucoup de fruits, mais pas beaucoup de temps. Les enfants d'aujourd'hui ont la vitesse du vent. Ils sont tout petits et déjà voient plus grand. Les enfants d'aujourd'hui, tout comme ceux d'hier, auront des cheveux gris et rêveront d'hier. Les enfants d'aujourd'hui, tout comme ceux d'hier, auront des cheveux gris et rêveront d'hier.
De retour à l'émission Au gré du temps, Destination Bonheur, avec nous aujourd'hui la charmante Claire Pimparé, pour qui le thème de l'enfance, je pense, a occupé la majeure partie de votre vie, votre carrière.
Oui, ben, en fait, du plus loin que je me souvienne, moi, chez nous, on était 9 enfants. Je vous dirais que maman, qui nous a quittés il y a quelques années, en fait, je pense qu'on est maintenant 3 ans, peut-être, ça va tellement vite. Pour moi, c'est hier. Et elle était ce qu'il y avait de plus beau sur la Terre. Une étoile, une boule de Noël, une fleur. Tout ce qui était beau, c'était maman. Et je me souviens, très jeune, je devais avoir à peu près 10-12 ans. Elle m'incitait à aller déjà commencer à garder les enfants. Et j'ai gardé 3 enfants dont la maman était en phase terminale. J'y prenais après l'école, je les amenais à la maison, souper, devoirs, dodo, etc., etc. Papa arrivait vers 10 heures et je les ai gardés presque pendant 1 an. J'avais 12 ans. Aujourd'hui, ça prend presque un cours de gardienne avertie. Il faut avoir 16 ans puis il faut avoir un cours de premiers soins. C'est bizarre comment on ne donne pas de responsabilité. On a peur, on oublie que... on se demande pourquoi nos jeunes sont moins débrouillards, prennent moins de responsabilités. C'est parce que le parent, souvent, ne coupe pas le cordon ombilical. Mais c'est pourtant à la naissance qu'on le coupe. Après ça, donner des responsabilités pour amener vos enfants à être débrouillards puis à faire des choses.
Mais cette sensibilité, justement, au sens des responsabilités, est-ce que ça provient, justement, du fait que vous veniez d'une famille nombreuse où chacun assume des rôles?
Tout le monde assumait des rôles puis on ne se posait pas de questions puis tout le monde était capable de faire... Ma mère, elle avait une phrase et c'était « Tu seras fatigué quand tu auras fini. Et je me
rappelle...
Vous
n'avez jamais fini.
Non, c'est ça, j'ai jamais fini, mais je me rappelle que maman faisait de la couture. Le soir à minuit, elle étendait des grands draps, faisait des robes de mariée. Le jour, on était 9 enfants, elle faisait du ménage, je me rappelle, à l'hôtel Mont-Lieu, qui était dans le bout de Saint-Eustache, en fait, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et moi, j'étais la plus petite, là, j'allais pas encore à l'école, fait qu'elle m'emmenait avec elle. Puis, tu sais, les anciens calorifères, là, qui avaient des espaces, des petits trous dedans.
Oui.
Elle me mettait des petites guenilles autour de mes 4 doigts et moi, j'enlevais la poussière entre les calorifères. C'était mon travail à moi, mais j'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Après ça, l'école a commencé. Là, moi, je suis allée, mais moi, j'allais, je la suivais.
Et votre rang dans la famille?
Je suis l'avant-dernière. Ma sœur Sylvie est arrivée 7 ans après moi.
Donc, vous avez probablement connu le fait de porter le linge des autres?
Ah, mon Dieu! plus que ça, quand vous dites le linge des autres, c'est vraiment des autres. Parce que nous, on recevait des poches de linge à la maison. Maman, qui avait des doigts de fée, prenait le vêtement, le défaisait, roulait le tissu, nous faisait choisir le tissu et nous refaisait un vêtement dedans.
Il fallait
ça,
le faire.
Là. Maman disait toujours, la richesse, c'est dans tes mains et dans ta tête. Plus tu seras débrouillard, plus tu sauras quoi faire, plus tu vas te servir de tes mains et de ta tête. Il n'y a rien dans la vie qui va t'empêcher d'avancer.
Et le père, dans tout cela, présent?
Peu présent. Mon père, c'est bizarre. Mon père a travaillé beaucoup. Il partait tôt le matin. Mais c'est un homme que je vous dirais qui était foncièrement malheureux. Je pense que il y avait plein de rêves qu'il n'a jamais réalisés. En plus de ça, je pense que c'est quelqu'un qui
était très enfermé, très renfermé. Mon père y arrivait, l'image que j'ai de lui, là, il est assis dans son petit bureau dans la chambre.
Que faisait-il?
À lire, faire ses mots croisés, des choses comme ça, mais aucune vraiment communication.
Mais comme beaucoup d'hommes de cette époque-là qui n'avaient pas été habitués à prendre, à avoir cette prise de parole?
Oui, oui, sans doute. Mais moi, je mets ça sur autre chose parce que j'ai des oncles, moi, qui étaient pourtant très
Donc, ça vous a manqué,
volubiles.
Cette communication?
Ça m'a manqué pendant... Oui, ça m'a manqué pendant un certain temps. Mais la vie, elle est bien faite, je trouve. Parce que, en quelque part, quand il est décédé, mon père, je lui ai dit, écoute, t'as jamais été heureux sur la terre. Envole-toi parce que c'est de l'autre bord que tu vas être heureux finalement. C'est comme ça, moi, je l'ai pris. Mais par contre, j'ai eu un beau-père qui était tellement magique et j'en parle dans mon livre d'ailleurs parce que je dis toujours que c'était le meilleur Ritalin pour mon fils.
Alors, pour ces deux hommes, probablement,
oui.
Allons chanter avec Mireille Mathieu qui nous chante que tous les enfants chantent avec moi.
Ah, ben voilà.
On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter le monde, et je crois bien que c'est vrai, car dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi. En travaillant, en s'amusant, et quelquefois même en dormant, tous les enfants chantent avec moi. Je les entends reprendre en chœur et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. La 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 la. Tous les enfants font la la la. Sous le grand soleil du midi, ou même les pieds dans la pluie, tous les enfants font la la la. C'est difficile à expliquer, mais j'ai le cœur tout chaviré. J'étais comme j'aimais ça. Mais la musique me